Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci à nos auditeurs fidèles d'être encore à l'écoute du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue à ceux qui découvrent Mélomanie, une actualité musicale qui va connaître une petite accalmie, comme ça lui arrive parfois la semaine prochaine. Il faut bien aussi que les musiciens se reposent avant la dernière ligne droite qui va les mener à la fin de la saison en cours. Il reste encore un certain nombre d'événements d'ici début juillet, et ce dans tous les genres. Nous aurons donc encore de la matière pour alimenter cette émission. Quant à celle du jour, rassurez-vous, elle propose aussi un programme copieux que nous allons aborder dans quelques instants avec ceux qui ont bien voulu participer à ce numéro. Mes camarades Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les trois, nous allons commenter les récents événements musicaux et vous présenter ceux qui s'annoncent. Il y en a tout de même quelques-uns, vous allez le voir. Dans les médias, nous allons revenir avec Anne-Marie et Serge sur l'actualité musicale de la semaine dernière. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous allons commencer ce retour sur l'actualité musicale récente avec un concert que nous avions annoncé il y a 2 semaines. Il a été donné à Saint-Pierre-des-Cuisines le 25 avril. C'était un concert à but caritatif organisé par le Rotary Club Toulouse-Lauragais au profit de l'association Espérance Banlieue. Sur le plateau de Saint-Pierre-des-Cuisines, le jeune pianiste Constant Després et le chœur Octambule. Serge Chauzy, vous avez assisté à ce concert et apparemment vous avez passé une très bonne soirée.
Ah oui, une excellente soirée. D'abord parce que je découvrais in situ, je ne l'avais pas entendu encore, Constant Després. Et puis je trouvais que l'organisation de ce concert était tout à fait honorable puisque la musique est placée au service de l'éducation. Hein. Vous savez que la Fondation Espérance Banlieue fonde des écoles dans les quartiers prioritaires. Et donc en particulier, il s'agissait là de l'école appelée le cours Les Constellations. Donc oui, un concert très particulier, en ce sens qu'il y avait quelques tout jeunes dans l'assistance. Et donc les responsables du Rotary Club, évidemment, qui soutenaient cette initiative. Et puis un petit génie, on peut dire, du piano, qui est donc Constant Després. Et rappelons qu'il est né en 2006, hein, donc il a à peine 13 ans. Il est né d'une mère indienne et d'un père français. Mais il est né dans un milieu musical, ce qui pourrait expliquer ses dons incroyables à cet âge-là. Alors, il faut quand même préciser qu'il a fait son apprentissage musical dans la chorale La Lausette, à 4 ans, à l'âge de 4 ans, ce qui est quand même incroyable, 4 ans et demi exactement. Et puis, il a travaillé le piano au Conservatoire de Toulouse, où il a intégré la classe d'un grand professeur qui s'appelle Véronique Grange, et dont il faut saluer l'action.
Oui, hein, un très beau travail depuis longtemps.
Oh là là, oui, oui. Bah écoutez, en tout cas, le résultat est tout à fait impressionnant, puisqu'il a présenté dans une première partie un programme musical d'une diversité totalement impressionnante, puisque ça allait du baroque Domenico Scarlatti au contemporain Gheorghi Ligeti. Imaginez qu'à 13 ans, on joue du Ligeti, c'est tout de même incroyable.
Il n'a pas froid aux yeux ni aux doigts, si je peux me permettre cette image.
Ouais. Alors, je dois dire que c'est dans la pièce de Ligeti, c'est la seule pièce pour laquelle il a eu une partition. Le reste, il jouait sans partition, et donc il a joué à la fois donc, cette sonate de Scarlatti, avec une effervescence digitale tout à fait impressionnante. Hein. C'était une sonate intitulée La Chasse. Et puis ensuite, il a joué du Prokofiev, tout de même. Alors, on a retrouvé le caractère de Prokofiev, tout à fait, cette espèce de motorisme impressionnant de la sonate numéro 2. Donc, là aussi, vraiment, avec, comment dire, une aisance et pas seulement une belle technique. Il a une technique tout à fait éprouvée, qui peut se charger de n'importe quelle pièce.
Qui est encore en construction, mais qui...
Mais vraiment, déjà, c'est impressionnant.
Oui, il y a déjà une certaine maturité. Oui.
Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa musicalité. Donc, un âge si jeune, avoir déjà une telle musicalité, qui certes pourra s'affirmer, mais vraiment, notamment il a joué 2 pièces de Chopin, avec la Fantaisie impromptue opus 66, et puis la fameuse et légendaire étude révolutionnaire, pour laquelle évidemment il a emporté l'enthousiasme du public, il a joué ça avec une espèce de hargne qui était tout à fait phénoménale. Donc vraiment, un grand panache pour ce jeune musicien. Et bon, on ne peut que lui souhaiter de poursuivre son parcours avec la même détermination, puisqu'il fait ça en toute simplicité. Il a une attitude très simple sur scène. Il ne cabotine absolument pas. Il est lui-même.
Non, c'est ça de façon décontractée, mais très sérieux.
Voilà, exactement. C'est l'impression qu'il donne. Décontracté et sérieux.
Constant Després qui a la particularité d'avoir l'oreille absolue.
Ah oui, ça.
Contrairement à ce qu'on croit, tous les musiciens n'ont pas l'oreille absolue. Ils ont une bonne oreille, oui, bien sûr, mais ils n'ont pas forcément l'oreille absolue.
Peut aider. Hein.
Ça peut aider.
donc, c'était très bien. Ensuite, il a participé à la première pièce que chantait l'ensemble vocal Octambule, qui l'accompagnait. Donc, cette pièce, c'était Beau soir de Claude Debussy. Alors, Octambule, c'est donc 8 chanteurs, comme le nom l'indique, 4 femmes, 4 hommes. Donc, un bel ensemble qui a détaillé, alors, à part Beau soir de Claude Debussy, tout le reste, c'était des inconnus, pour ma part en tout cas, des compositeurs inconnus, qui étaient des musiciens d'Europe du Nord vivant aux États-Unis. Alors, ces pièces, elles sont écrites sur des textes poétiques de grands auteurs, comme Rilke ou Neruda. Mais bon, je vous avoue que je ne connaissais pas ces musiciens, ces compositeurs, Morton Lauritsen, Erik Eisenwaltz, Erik Whitaker et Olag Jallo.
Bon, eh bien, voilà. Vous m'en direz tant.
Oui, n'est-ce pas? Alors, non, intéressant, on découvrait là aussi, hein, donc ça a été aussi très, très bien. Et donc, ils ont terminé avec une espèce de bis dont on ne sait pas ce que c'était, mais qui était agrémenté de sifflements d'oiseaux. On a eu droit à une espèce de volière sur scène, qui est très intéressante. Quand même, il y a eu un bis, puisque le concert a eu un gros succès. Et donc, Constant Després est revenu pour accompagner de nouveau le chœur Octambule dans la pièce « Beau soir » de Debussy. Donc, vraiment un beau moment, et avec, pour ma part, une découverte qui est celle de Constant Després, dont il faut retenir le nom.
Ah oui, ça, on va le suivre, faites-nous confiance. Juste une question, vous êtes un concert caritatif, est-ce que la salle était bien remplie?
Oui, la salle était bien remplie, quasiment pleine, donc c'était réconfortant de voir que ça a marché.
Alors, on aime bien Constant Després ici, vous l'avez compris, on va suivre de près sa progression et le début de sa carrière très prometteur, parce qu'il faut bien le dire, c'est déjà un début de carrière pour ce jeune pianiste âgé d'à peine 13 ans, comme vous l'avez rappelé, Serge. Nous allons l'écouter jouer une pièce d'un de ses compositeurs de prédilection. Constant Després interprète la valse opus 64 numéro 2 de Frédéric Chopin. Thank you. La valse opus 64 numéro 2 de Chopin interprétée par Constant Després dont nous continuerons à annoncer les concerts dans notre région. Il devrait y en avoir bien d'autres dans les années à venir. Je précise que l'extrait que nous venons d'écouter a été enregistré il y a déjà 2 ou 3 ans. Il a évidemment beaucoup progressé depuis. Serge peut en témoigner.
Exactement, absolument.
Nous allons maintenant parler du dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole donné samedi à la Halle aux Grains. Nous vous l'avions aussi annoncé lors du précédent numéro de Mélomanie. Le programme était entièrement consacré à Gustav Mahler, dont 2 œuvres ont été jouées, la symphonie numéro 10 et le chant de la terre, 2 pièces magistrales dont l'interprétation était dirigée par le chef américain Joseph Swensen. Alors, je crois qu'on peut dire que le bilan de cette soirée est un peu contrasté. Je pense que c'est votre sentiment, Serge. Est-ce que c'est le vôtre aussi, Anne-Marie ?
Écoutez, si on prend objectivement la voix simplement de la mezzo qui chantait le chant de la terre, on peut être un peu réservé sur sa voix qui n'a pas forcément un médium très riche. Et finalement, le bilan est très positif et le public qui a rappelé, qui a re-rappelé, qui était enthousiaste, qui a été très ému par ce chant de la terre et cet adieu final, a adoré. Alors c'est vrai que les réserves venaient peut-être aussi un petit peu de l'acoustique qui faisait que la façon dont les chanteurs étaient placés ne permettait pas toujours qu'ils soient mis en valeur par rapport à l'orchestre. Mais l'orchestre pourtant que dirigeait Swensen, qui est un grand mahlérien puisqu'il a déjà dirigé à Toulouse une intégrale des symphonies de Mahler. Ça terminait même, on peut dire, le cycle.
Oui.
Même c'est échelonné
peut-être
sur...
Peut-être pas tout à fait.
Pas tout à fait, mais enfin, disons...
Il n'a encore pas dirigé la 8e, la symphonie des 1000, mais elle est si difficile à monter.
Oui, surtout, oui, c'est à cause de ça. Il le dit, c'est-à-dire que pour la monter, il faudrait la donner au Palais des Sports,
au Zénith. Voilà.
C'est ce qu'avait fait Placer un jour.
Exactement.
Qu'il l'a fait, c'était au Zénith
ou... Je crois que c'était au Palais des Sports.
Au Palais des Sports.
Ouais, ouais. Mais les voix étaient sonorisées,
d'ailleurs. Les voix étaient sonorisées. Ouais. Donc, il a quand même fait toutes les symphonies, quasiment sauf la 8e, et qui dirige ça, comme il le dit lui-même, comme de la musique de chambre. C'est-à-dire qu'il met en valeur les timbres, la clarté du discours, et dans ce chant de la terre, c'est très réussi, je trouve, parce qu'il y a de merveilleux solos de hautbois, de flûte, et c'est tout un ensemble de choses qui fait une palette très belle, avec la voix de la soprano qui termine. C'est vrai qu'elle termine tout de même avec une émotion dans la voix, une émotion qui n'est pas forcé, quelque chose d'assez naturel. C'est Janina Echel que l'on a découverte dans l'opéra Ariane et Barbe Bleue.
Qui était excellente dans la nourrice.
Excellemment,
mais qui s'est révélée dans le... Peut-être qu'elle se ménageait au début, dans le dernier, l'adieu, superbe, d'émotion contenue, avec un chef d'orchestre et un orchestre qui l'environnait, avec la même conception, avec des solos superbes, et une émotion qui n'était pas forcée, il n'y avait rien de... Parce que certaines voix, parfois, qui chantent ces fameux leaders, on peut aussi... Un peu forcé le trait, là c'était très beau sur le plan de l'expression, même si on peut, surtout au début, il lui manquait tout de même un médium un peu solide. Et puis il y avait le ténor qui s'appelle Christian Elsner, qui est un chanteur qui est habitué à chanter des opéras de Wagner. On l'entendait modérément lui aussi, mais peut-être aussi c'était derrière le chef. Ça dépendait où on se trouvait. Il paraît que là-haut non plus. C'est une voix qui n'est pas forcée, qui est pourtant habituée à chanter des rôles donc de fort ténor. Voilà. C'était un petit peu tous dans la même atmosphère, mais l'œuvre elle-même, des gens sont venus à la sortie, ils étaient vraiment émus, donc l'émotion était passée.
Bah, les 2 œuvres sont magnifiques, et le chant de la terre, on n'entend pas souvent en plus.
Non.
Je pense que beaucoup de gens ont dû le découvrir à ce moment-là.
On l'a entendu il y a quelques années, ça avait été donné à la Halle aux Grains aussi.
Ouais.
Et puis il y avait l'adagio de la 10e symphonie de Mahler, une symphonie qui n'est jamais arrivée à son terme, qui est restée simplement à un seul mouvement et qui était superbe à l'orchestre avec des cordes magnifiques. Et c'est vrai que Swensen confirme qu'il est un chef mahlérien profond et en même temps très attentif à la beauté de l'orchestre proprement dite. Et c'est vrai que l'orchestre du Capitole, dans ce répertoire, qu'il a déjà joué beaucoup, est vraiment ce qu'il faut, puisqu'il a tout ce qu'il faut au niveau technique.
Bah, José Swensen, d'abord, c'est un musicien lui-même. Hein,
c'est un violoniste.
Excellent violoniste.
Oui.
Donc, chef très musicien et très apprécié à ce titre par les membres de l'orchestre du Capitole.
Tout à fait, exactement. Ils sont
adorent
très
jouer
appréciés.
Avec
lui, il adore les musiciens de l'orchestre.
Oui, mais il y a des années qu'il vient.
Oui, c'est un grand monsieur.
C'est pas hasard.
Et donc, effectivement, alors oui, je suis tout à fait d'accord. Là, pour le chant de la terre, le problème était un peu que les voix, le plus souvent, souvent été noyé dans une orchestration rutilante, qui est d'une telle beauté et d'une telle richesse que ça avait tendance à noyer un peu les voix, ce qui est un peu dommage. Mais ce qui est réconfortant, c'est l'accueil du public. Pourquoi ? Parce que Gustav Mahler a pâti en France d'un accueil très réservé au début du XXe siècle. Je voudrais rappeler ce que Claude Debussy, féroce critique musicale, mais grand compositeur évidemment, s'il en est, a écrit ceci concernant les symphonies de Mahler. « Ouvrons l'œil et fermons l'oreille, le goût français n'admettra jamais ces géants pneumatiques à d'autres honneurs que de servir de réclame à Bibendum. » Ça, c'est vraiment...
C'est bien du Debussy.
C'est du Debussy, oui. Mais bon, fort heureusement, l'appréciation du public a changé au cours du XXe siècle, et donc Mahler est devenu un compositeur très apprécié des Français. Il faut se rappeler que même en Autriche, il n'était pas très apprécié. C'est Leonard Bernstein, quand il est venu diriger le Philharmonique de Vienne, a dû imposer Gustav Mahler aux musiciens de l'orchestre qui n'aimaient pas ça.
Et il les avait accusés surtout, en plus, j'ai tout un reportage là-dessus, et il les avait accusés que c'était parce qu'ils étaient antisémites.
Oui, antisémites en plus, oui.
C'est
ce qui était dit à l'époque, et que finalement, l'origine de Mahler, alors qu'il n'était pas pratiquant, finalement, d'aucune
religion. Il était converti même.
Oui. Comme Mendelssohn et
oui, c'était converti pour être directeur de l'Opéra de Vienne.
Oui, ils n'avaient pas trop le choix.
Mais moi, je trouve personnellement que la musique de Mahler, moi, je la trouve merveilleuse.
Ah oui, c'est une musique...
Parce qu'elle n'est pas lourde, contrairement à ce que disent les gens. Elle n'est pas...
Non.
Justement, comme elle est dirigée là, c'est une musique qui...
Ah oui, oui. En fait, comme tu as dit, c'est la musique de chambre pour grand orchestre.
C'est exactement ça. Une musique qui, moi, je trouve, a beaucoup de profondeur.
Profondeur, bien sûr.
Et donc, dans l'adagio de la dixième symphonie, le seul mouvement que Mahler ait pu orchestrer, puisqu'il a laissé des esquisses pour les mouvements qui devaient suivre. Mais là c'est vraiment une merveille absolue. Alors, dans ce mouvement, il y a une espèce de succession d'événements tragiques, très contrastés. Et donc, il y a une continuité en même temps. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'ouverture, le tout début, avec le pupitre d'alto, qui est d'une qualité, d'une beauté, au point que d'ailleurs, à la fin, le chef a fait lever le pupitre d'alto et s'est particulièrement adressé à eux pour les féliciter. C'était une vraie merveille. Et puis, il y a cette espèce de grand cluster orchestral au milieu du mouvement, qui est d'une beauté extraordinaire, un peu désespérée, puisque c'est la révélation pour Mahler de sa maladie incurable, de tous les problèmes. Il a été chassé donc de l'Opéra de Vienne, etc. Donc, on retrouve dans cette symphonie tous les événements tragiques qui ont accompagné sa vie. Et c'est d'une beauté incroyable. Et je voudrais redire la beauté éblouissante des couleurs et de l'éclat manifesté par l'orchestre, qui a vraiment fait des merveilles, à la fois dans les solistes, parce qu'il y a beaucoup de solos de tous les instruments, comme disait Anne-Marie, à la fois le hautbois, la clarinette, la trompette, elle a un moment, une note tenue, tragique, très intense, magnifique, très très beau moment.
Bien, comme le chant de la terre est peu joué en concert, en particulier à Toulouse où il a rarement été donné, je vais vous proposer d'écouter un extrait de cette très belle œuvre de Gustav Mahler. C'est le premier des six leaders que compte le chant de la terre et il s'agit d'une version dirigée par Herbert von Karajan. Thank you. Das Stringlied vom Jammer der Erde, le premier des six leaders qui composent le chant de la terre de Gustav Mahler. C'est une version du Berliner Philharmoniker dirigé par Herbert von Karajan et c'est le ténor allemand René Collo que vous avez entendu. Le concert sur lequel nous allons revenir maintenant a eu lieu lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous l'avions également annoncé la semaine dernière. Il s'agissait là aussi d'une soirée musicale caritative au profit de l'association Hôpital Sourire, donnée par l'orchestre En Harmonie, dirigé par Serge Krichewski, auquel il faut ajouter le pianiste Philippe Monferrand pour l'interprétation du concerto de Schumann. Il y avait deux autres œuvres au programme. Alors Serge, vous étiez à ce concert, rappelez-nous quelles étaient ces deux autres œuvres.
Alors en fait, le programme était composé de trois œuvres des compositeurs les plus significatifs de l'ère romantique, puisqu'il y avait du Beethoven, du Schumann et du Schubert. Donc on est en plein dans le romantisme allemand et c'était très très beau. Alors je voudrais quand même rappeler que l'association Hôpital Sourire apporte une aide aux enfants malades accueillis au CHU de Toulouse et en Midi-Pyrénées et qu'elle a été créée en 1995. Donc elle fait une très belle action et d'ailleurs l'orchestre La Harmonie a plusieurs fois, très souvent, régulièrement soutenu l'action de cette association. Donc c'est vraiment une belle action que fait cet orchestre. Cet orchestre qui est, rappelons-le, une espèce de mélange très harmonieux entre des musiciens professionnels et des musiciens amateurs, avec une proportion qu'il est bon de rappeler, les trois quarts sont des amateurs, et il y a à peine un quart qui viennent du milieu professionnel, et la plupart ce sont des musiciens de l'Orchestre National du Capitole.
Alors, donc, vous dire que ce sont de grands amateurs tout de même, hein, c'est-à-dire musiciens qui auraient pu faire sans doute des carrières professionnelles pour beaucoup d'entre eux, mais qui ont préféré privilégier leurs études non musicales pour arriver à des carrières. Aujourd'hui, beaucoup sont scientifiques, ingénieurs.
Bien sûr. Et il y a même quelques élèves du conservatoire qui y participent. Et donc c'est Serge Krichewski, le hautbois solo de l'Orchestre National du Capitole, qui les dirige, qui les fait travailler, et apparemment avec beaucoup de talent, puisqu'il obtient de cet ensemble une cohésion tout à fait remarquable. Ce que l'on aurait pu craindre, que les musiciens quand même différents ne s'agglomèrent pas de manière tout à fait cohérente. C'est pourtant le cas. Et donc c'était vraiment très 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 beau, avec en ouverture, c'est le cas de le dire, l'ouverture Léonore 1 de Beethoven, qui est des quatre ouvertures que Beethoven a écrites successivement avant d'arriver à celle de Fidelio pour son unique, seul et unique opéra, donc Fidelio. Et donc cette première, c'est celle qui est le moins donnée, qui est le moins jouée. Et finalement, elle possède en germe quelques-uns des motifs et des accents héroïques que l'on retrouve dans l'opéra. Et donc, avec une belle tension, une belle montée, de beaux crescendo, donc très très bien. Ensuite, nous avons eu donc le concerto en la mineur pour piano et orchestre de Schumann, avec cet excellent pianiste qui est Philippe Monferrand, et qui est vraiment un compagnon de route de la Harmonie. Il a beaucoup joué avec eux en soliste.
En général, quand un concerto pour piano est joué par la Harmonie, c'est Philippe Monferrand qui est convoqué.
Ah oui. Et là, vraiment, il a fait de très belles choses dans une œuvre qui est à la fois passionnante et passionnée, qui rassemble à peu près toutes les caractéristiques qui font que Schumann peut être qualifié de poète du clavier tout de même. Donc, ça a été très très bien. Alors, je voudrais juste donner une petite indication, un petit détail qui montre à quel point ça a été travaillé. Le concerto commence par de grands accords, et puis il y a deux grands accords du tutti et du piano, très délicats, à rendre de manière cohérente, c'est-à-dire avec précision. Très souvent, il y a un petit décalage entre le piano et l'orchestre. Là, c'était d'une perfection absolue, donc bravo à eux. Et tous les trois mouvements de ce concerto, qui initialement d'ailleurs n'en comportait qu'un. Initialement, Schumann avait composé une fantaisie, et c'était le premier mouvement, puis il l'a complété un peu plus tard, et c'était une sorte de cadeau à sa chère Clara, qui lui a fait avec cette œuvre magnifique. Donc, très beau moment avec, dans la direction de Serge Krichewski et le jeu de Philippe Monferrand, une espèce de conjugaison entre précision et liberté, ce qui est difficile, entre rigueur et passion, et donc la musique respire et ne perd jamais la pulsation. Donc vraiment un beau moment aussi, avec notamment dans le mouvement central, ces dialogues très amusant entre le piano et les divers pupitres de l'orchestre. Donc très bien travaillé. Donc je suppose qu'ils ont dû beaucoup répéter pour arriver à ce résultat. Et tout ça est couronné par une coda finale qui est un véritable feu d'artifice. Donc ça a été très très bien, vraiment un beau moment. Et enfin, en deuxième partie, alors là, c'est vraiment, on peut dire, l'une des symphonies les plus célèbres du répertoire romantique, c'est la 8e symphonie de Schubert, dite inachevée, et dont la partition a été découverte bien des années après la mort prématurée de ce pauvre Schubert. Là, on se retrouvait évidemment dans un territoire bien, bien connu, et on a pu constater à quel point chaque musicien était investi et conscient de sa propre responsabilité dans cette exécution. Il était à la fois précis, avec engagement, avec ses premières mesures, notamment de l'allegro moderato, du premier mouvement. Moi qui toujours me font vibrer, oui, parce qu'on a l'impression d'un battement de cœur, c'est très touchant. Et puis là aussi, avec des solos instrumentaux de tout premier plan, notamment pour le hautbois, qui est une dame qui joue du hautbois magnifiquement, une clarinette avec la relative détente qu'apporte l'andante, con moto, et puis ce chant des violoncelles magnifique, contre-chant en fait par rapport au violon. Donc vraiment un beau moment que cette symphonie en deux mouvements, puisque les esquisses que Schubert a laissé des mouvements suivants, n'ont pas donné lieu à beaucoup de développement. Certains s'y sont attelés, mais ça n'a pas eu d'effet extraordinaire par la suite.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, concert à objectif caritatif. Oui. Est-ce que le public a répondu présent ?
Le public a répondu présent. C'était très bien. Le public a été enthousiaste et un public nombreux. Donc, c'est réconfortant. Hôpital Sourire va se retrouver un peu un soutien dans la suite de ce concert.
Alors, je n'ai pas d'extrait de l'orchestre en harmonie à vous proposer, mais je voulais vous faire entendre dans cette émission le superbe concerto pour piano de Robert Schumann. Voici une version dirigée par Colin Davis avec Evgeny Kissin au piano. Le premier mouvement du concerto pour piano de Robert Schumann, interprété par Evgeny Kissin et le London Symphony Orchestra, dirigé par Colin Davis, avec lesquels nous terminons cette première partie d'émission. Rendez-vous dans une minute après l'habituelle petite pause pour l'agenda en compagnie d'Anne-Marie Chouchan et Serge Chauzy.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi.
Mélomanie, l'agenda.
Pour commencer cet agenda, nous allons d'abord nous intéresser au concert que donne l'Orchestre National du Capitole samedi 11 mai à la Halle aux Grains. Et c'est encore le chant et la musique germanique qui vont être à l'honneur lors de cette soirée où l'ensemble symphonique toulousain va être dirigé par le chef catalan Josep Pons, invité chaque année ou presque à Toulouse comme l'est aussi Joseph Svensson dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce concert du 11 mai, comme l'était le précédent dédié à Gustav Mahler, est consacré à un seul nom, celui de Strauss. Mais comme chacun sait, les Strauss, ça ne manque pas dans le monde de la musique classique. Alors Serge, il s'agit desquels en l'occurrence ?
Ah ben, de deux familles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, celle de Johann Strauss. Johann Strauss est viennois, évidemment. Et donc, le concert va s'ouvrir avec la fameuse valse du Beau Danube Bleu. Bon, donc, ça,
c'est... Pas la peine de s'étaler dessus, je pense que tout le monde connaît.
Voilà, on connaît bien. Et tout le reste du concert est consacré à Richard Strauss, qui lui est un bavarois pur jus et qui n'a rien à voir avec la famille des Viennois, donc, et qui lui a été le grand compositeur du début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle. Et il y aura deux Richard Strauss au programme, à la fois les quatre derniers leaders qu'il a composé à la fin de sa vie,
tout
à fait la fin.
C'est son œuvre testament, je crois qu'on peut
complètement
la présenter comme ça.
Oui, oui. Et en deuxième partie, l'un de ses poèmes symphoniques les plus célèbres, Ainsi par Zarathoustra ou Ainsi par les Zarathoustra, ben, l'original ne permet pas de distinguer. Also sprach Zarathoustra.
Alors souvent, pour distinguer l'œuvre dont s'inspire Richard Strauss, voilà, c'est-à-dire l'œuvre de Friedrich Nietzsche,
oui,
c'est Ainsi par les Zarathoustra. Et pour Richard Strauss, on dit Ainsi par la Zarathoustra. On le met au passé simple.
Ben,
bon,
oui,
c'est une manière de les distinguer.
Oui, oui, mais on ne peut pas parce qu'en allemand, il n'y a pas de différence entre les
oui,
deux.
Je sais.
Sprach, c'est à la fois parler.
C'est par en là. France qu'on voilà, on fait ce petit jeu-là.
Donc,
l'imparfait et le passé simple.
Donc, Joseph Pons revient, bon, c'est un habitué hein, de la Halle aux Grains, un habitué de l'orchestre qu'il aime beaucoup,
oh,
et c'est réciproque
et c'est partagé,
aussi.
Oui, oui.
Oui, oui, donc voilà, avec Joseph Svensson, c'est amusant parce que ce sont vraiment deux grands chefs qui reviennent régulièrement et qui...
Tous les ans.
Sont appréciés à la fois de l'orchestre et du public. Donc, c'est une bonne chose. Alors, bon, Joseph Pons, souvenons-nous qu'il est quand même directeur musical du fameux Théâtre Liceo de Barcelone. Hein. C'est quand même
oui, un titre
une
très
personnalité importante.
Bien sûr, hein. Même en Europe.
Voilà, voilà. Donc, on est très heureux de le retrouver. Alors là, le célèbre Beau Danube Bleu donc, ouvrira le concert. Alors, il y a un lien quand même entre la première œuvre et la dernière, Ainsi par Zarathoustra et le Beau Danube Bleu. Ces deux partitions ont servi de musique de film pour 2001.
Pour Stanley Kubrick et son 2001.
Et voilà, donc c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs qu'il a voulu.
Oui, je pense. Oui.
Qu'il a voulu réaliser là. Donc, c'est très bien. Hein. Quant aux quatre derniers leads, alors là, on recevra pour la première fois à Toulouse, une soprano allemande qui s'appelle Anne Schwanewilms, qui est née dans la Ruhr et qui s'est formée au chant sous la conduite d'une grande basse allemande, Anne Sautin, que l'on a entendue assez souvent sur les grandes scènes d'Europe et du monde, et qui chante aussi bien l'opéra que la mélodie, que le récital. Et donc, elle a vraiment une réputation extraordinaire. Ce que l'on peut entendre d'elle sur Internet est tout à fait impressionnant. Je voudrais signaler l'appréciation d'un connaisseur qui était en particulier la personne de Gérard Mortier, qui a été le directeur de l'Opéra de Paris, il la qualifie de meilleure maréchale du monde. C'est quand même une sacrée appréciation. Maréchal, c'est le principal rôle du Chevalier à la Rose, opéra de Richard Strauss également. Donc, je crois qu'on peut s'estimer heureux d'accueillir pour la première fois cette cantatrice. Donc.
Alors, ces quatre derniers leaders, je reviens dessus, œuvre composée par Richard Strauss en 1948, mais créée seulement en 1950, c'est-à-dire après la mort du compositeur, parce qu'il est mort en 1949. Il faut préciser que les poètes qui ont écrit les poèmes dont sont inspirées cette œuvre, alors il y en a trois de Hermann Hesse.
Oui.
Et puis le premier, j'ai oublié le nom.
Eschendorf.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Eschendorf. Pour le premier, dont le titre est Frühling.
Frühling, printemps.
Printemps.
Printemps, hein? Oui, non, mais c'est une œuvre tout à fait magique.
Parce qu'il y a printemps, il y a septembre, il y a l'heure du sommeil et au crépuscule.
Voilà, et ça finit par le crépuscule, évidemment.
Voilà, ça finit par le crépuscule. Et donc, Anne Schwann Wilms, pas facile à prononcer, c'est une grande spécialiste du genre, enfin, oui. En tout cas de ce genre de répertoire, et de Strauss, puisqu'elle chante aussi ses opéras. Eh bien, nous allons partir à la découverte de ces quatre derniers leaders de Richard Strauss. Avec Anne Schwann Wilms, voici le premier d'entre eux, Frühling, printemps. Frühling, printemps, le premier des quatre derniers leaders de Richard Strauss, chanté par Anne Schwann Wilms, que vous pouvez retrouver samedi 11 mai à la Halle au Grain avec l'Orchestre National du Capitole dirigé par Joseph Pons pour un concert qui va commencer à 20h. Et je voulais rendre à César ce qui est à César, à Hermann Hesse ce qui est à Hermann Hesse et à Eschendorf ce qui est à Eschendorf. En fait, les trois premiers poèmes sont de Hermann Hesse et le dernier, Au crépuscule, est de Eschendorf. Merci à Sir Chosy d'avoir rétabli la vérité. Au programme de ce concert, il y aura également Ainsi parla Zarathoustra du même Richard Strauss et Le beau Danube bleu de Johann Strauss, fils. Nous allons terminer cette émission avec le prochain et dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il est programmé lundi 13 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, bien entendu. Alors là, il y a un seul compositeur et une seule œuvre au programme, et pas n'importe laquelle. Une pièce un peu mythique, je crois qu'on peut le dire sans exagérer, le fameux Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Avant d'évoquer cette œuvre avec vous, Anne-Marie et Serge, je voulais vous demander ce que vous pensez de la musique d'Olivier Messiaen, certainement un des compositeurs les plus importants et les plus influents du siècle dernier. Anne-Marie.
Oui, c'est un des très grands du XXe siècle. Il était organiste avant tout. Ensuite, voilà. Il était...
Pianiste aussi.
Pianiste, mais tout de même un grand organiste, oui. Puisqu'il est resté, je ne sais plus, je viens de le vérifier, plus de 60 ans organiste titulaire de l'église de la Sainte Trinité à Paris, et qu'en dehors de ça, il a composé beaucoup de choses qui sont d'une esthétique qui a traversé le XXe siècle, qui n'est pas aussi marquée que certains compositeurs du XXe siècle. Il a surtout formé au Conservatoire supérieur de Paris, alors là, pléthore
ah
de
oui,
grands musiciens.
Impressionnant. Ah oui,
puisqu'il était un professeur réputé, et je crois quelqu'un qui a tout de même marqué donc, le XXe siècle, mais son œuvre pour orgue est très très belle et elle est souvent jouée par les grands organistes, puis d'autres œuvres que je n'ai pas faites.
Il avait un regard sur l'enfant Jésus, il est vraiment marqué par la spiritualité
Saint François d'Assise. Bah oui, sa musique, ses œuvres sont imprégnées de mysticisme chrétien, puis aussi par la liturgie, par l'évangile.
Exactement.
Par l'Apocalypse selon saint Jean, mais ça on va en parler parce que c'est justement ce qui inspire le quatuor pour la fin du temps. On va y revenir. Et Serge, vous, votre avis sur Messiaen?
Ah oui, alors d'abord, c'est un très grand organiste, très grand pianiste, avec sa femme Yvonne Loriot, évidemment, qui a été aussi, elle aussi, une très très grande pianiste, avec laquelle il jouait en duo, d'ailleurs, pas mal de ses œuvres, et un grand orchestrateur. Sa Tourangali, la symphonie, qu'on a entendue plusieurs fois à Toulouse
oui.
Est une œuvre monumentale, tout à fait magnifique. Donc c'est vraiment un grand compositeur qui a su naviguer entre traditionnalisme et avant-garde, donc être entre les deux, ne pas déconcerter par sa musique, qui est souvent une musique tonale, et donc vraiment un grand, mais qui a laissé, comment dire, libre cours à tous les élèves qu'il a éduqués, notamment Pierre Boulez.
J'allais venir, alors on ne peut pas donner toute la liste parce qu'il y en a eu des dizaines, mais bon, le plus connu en France, c'est Boulez, évidemment. Est-ce que Boulez aurait été Boulez s'il n'avait pas été l'élève de Messiaen? C'est pas sûr. Oui. Mais il y a eu aussi Karl-Heinz Stockhausen. Nikos Theodorakis, Yannis Xenakis, et puis quelques autres. Oui. Claude Vivier. Il y a un opéra, il n'y a pas longtemps. Produit par le Théâtre du Capitole. Bon, voilà, c'est très, très longue liste d'élèves. Donc, il y a une longue descendance de Messiaen aussi, longue filiation. Alors, on revient à ce concert maintenant. Et donc, au quatuor pour la fin du temps. Œuvre composée en 1940.
40 et 41.
C'était pas un hasard non plus.
Non, mais c'est en plus, les circonstances de composer la composition sont tout à fait extraordinaires, sens propre du terme, puisqu'il était détenu dans un stalag en Allemagne, et donc, pour s'occuper en quelque sorte, il a réuni les musiciens qui étaient ses compagnons de misère, de détention, et donc il a composé une œuvre pour quatre instruments, apparemment, qui apparaissent presque comme hétéroclites, a priori. Il y a une clarinette, un violon, un violoncelle et un piano. Ben, c'est parce qu'il y avait ces quatre musiciens
qui étaient disponibles,
évidemment, qui avaient leurs instruments. Et donc, il a composé cette œuvre qui est donc une œuvre profondément spirituel, lié donc à...
C'est l'Apocalypse selon saint Jean.
Alors, il a fait une instrumentation tout à fait particulière qui varie d'une pièce à l'autre. Il y a 8 pièces qui composent cette œuvre. Il l'a écrite donc pour ces 4 instruments qu'il a qualifié d'instruments de fortune. Effectivement, les instruments qu'il trouvait sur place. Et il s'est exprimé sur les 8 mouvements qui le composent en ces termes. 7 est le nombre parfait, la création de 6 jours sanctifiés par le sabbat divin. Le 7 de ce repos se prolonge dans l'éternité et devient le 8 de la lumière indéfectible de l'inaltérable paix. Ça, ce sont vraiment des paroles typiques d'Olivier Messiaen. Et d'ailleurs, si l'on examine les titres des 8 pièces...
8 mouvements et 8 titres très évocateurs.
Ah non, mais un peu sibyllin par moment. Parce que
pour certains, oui.
Pour certains, on a du mal. Alors le premier s'appelle « Liturgie de cristal », terme magnifique. Ensuite, « Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps ».
Et alors ça, c'est vraiment l'Apocalypse selon saint Jean, l'ange qui annonce la fin du temps.
Complètement. Puis, abîme des oiseaux.
Ça, c'est sibyllin, faut
ça, c'est sibyllin. Mais il était passionné, spécialiste, un ornithologue.
Ornithologue,
c'était
oui.
Vraiment
sûr,
ornithologue. Ouais. Donc on n'est pas étonné de retrouver des oiseaux.
D'où sa passion aussi pour saint François d'Assise, bien sûr.
Exactement, exactement. Puis, il y a un intermède. Ensuite, louange à l'éternité de Jésus. Bon, tout ça, c'est rien que de très... j'allais dire orthodoxe, non, très catholique. Et ensuite, danse de la fureur pour les 7 trompettes.
Alors là,
c'est une pièce...
Surtout qu'il n'y a pas de trompette dans le quatuor.
Non, il n'y a pas de trompette, mais c'est une pièce où les 4 instruments jouent à l'unisson.
Oui.
C'est tout de même incroyable. La 7e, alors là, c'est un titre extraordinaire qui dit ceci, fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps. Fouillis d'arc-en-ciel.
C'est joliment trouvé.
Mais c'est vrai qu'il avait aussi des relations particulières avec les couleurs.
Oui. Hein,
donc, pour lui, chaque accord musical lui évoquait un mélange de couleurs, mais très clairement dans sa tête. Et le tout s'achève avec la huitième pièce qui s'appelle « Louange à l'immortalité de Jésus ». Et là, c'est le violon qui tient le rôle de soliste et qui est accompagné du seul piano. Donc vraiment, c'est une œuvre totalement hors du temps, de l'espace et des conventions traditionnelles.
Et puis alors, une chose troublante, c'est que cette œuvre, donc inspirée de l'Apocalypse de Saint Jean, a été composée par Messiaen entre 1940 et 1941, c'est-à-dire qu'il avait 32-33 ans, l'âge du Christ.
Voilà, ah oui,
en mais plus. Oui, c'est un hasard qu'il n'en ait peut-être pas un, en tout cas, cette anecdote. Et puis bon, c'est une œuvre... Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle révolutionne les codes de la composition, mais c'est une œuvre un peu charnière quand même au XXe siècle.
Oui, quand même. Non, mais c'est une œuvre unique, hein. Il n'y a pas d'équivalent.
Alors, on parlait maintenant du quatuor qui va jouer cette pièce.
C'est très important.
Donc, une clarinette, un violon, un violoncelle
et un piano
qui sont donc
la clarinette est Laurence Perry, le violon Edwige Varenk, le violoncelle Sarah Yansou, et le piano, Christophe Larieux. Donc, quatre musiciens bien connus pour ceux qui sont les habitués.
Quatre excellents musiciens, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire sur l'interprétation.
Concerts, absolument.
Et puis le concert va être présenté.
Voilà, alors c'est un peu particulier, comme il n'y a qu'une œuvre, une œuvre qui dure à peu près une cinquantaine de minutes. Et donc ce concert, étant donné la particularité de l'œuvre, les Clés de Saint-Pierre ont pensé à juste titre qu'il était bon de la présenter au public. Et donc la présentation sera faite par Joël Farinck, qui est une habituée de ce genre d'activité. Et donc on peut s'attendre à avoir une introduction tout à fait bien faite de cette œuvre particulière d'Olivier Messiaen. Et donc c'est pour inciter les gens qui seraient un peu réticents à venir assister à ce concert, de ne pas se faire de soucis. Avec la présentation qui leur sera faite, l'accès en sera beaucoup facilité.
On va écouter un des mouvements du quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, le premier joliment intitulé « Liturgie de cristal », une version avec Daniel Barenboim au piano. Liturgie de cristal, premier mouvement du quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen avec Daniel Barenboim au piano. C'est donc la seule œuvre au programme du dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, donné lundi 13 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Avant de terminer cette émission, Anne-Marie, vous vouliez faire une petite annonce. C'est ce week-end.
samedi et dimanche.
L'opération Tous à l'Opéra au Théâtre du Capitole.
Au Théâtre du Capitole, ces journées à l'Opéra qui durent déjà depuis plusieurs saisons et qui se déroulent dans tous les opéras de France, mais aussi maintenant aussi en Europe, souhaitent faire mieux connaître, faire entrer le grand public à l'Opéra, découvrir la salle, avoir les programmes de la saison, admirer des costumes, aussi des productions sont diffusées en vidéo toute la journée et connaissent un grand, grand succès. Cette année, donc, elle se déroule ce samedi
4 mai.
De 11h à 20h30 samedi et les dimanches de 11h à 18h. On peut visiter la salle entre midi et 2h et en fin d'après-midi. Donc on peut essayer des costumes, ça a beaucoup de succès. Les enfants adorent, les adultes aussi et tout ça est gratuit.
Et découvrir le théâtre de l'intérieur.
Et découvrir la salle à l'intérieur, la salle dans laquelle il y a un récital qui sera dimanche à midi, un récital qui sera donné par Céline Laborie, une soprano, et Julien Véronèse, basse, qui seront accompagnés au piano, donc avec des airs et duos d'opéra, de Mozart, Donizetti, Rossini, Massenet. Et puis donc ça fait que les gens peuvent passer le week-end à l'opéra pour leur plaisir. Tout ça bien sûr gratuit, ouvert à tous, sans limite, sauf parfois la salle de spectacle quand il y a trop de monde, parce que les gens quand ils arrivent au Capitole qui ne connaissent pas du tout le théâtre, qui n'ont jamais assisté à un opéra, ont tous envie de découvrir la salle. Alors ils doivent faire ça en plusieurs fois parce qu'il y a foule, ils sont obligés de la fermer. Donc voilà, ça se passe toujours très bien et ça a beaucoup de succès.
Eh bien, il fallait signaler cette manifestation. Merci beaucoup Anne-Marie. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie. Tous mes remerciements à vous deux, Anne-Marie Chouchon et Serge Chosy, d'avoir été à mes côtés pour l'animer. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Je rappelle les dates des prochains événements à noter dans vos agendas. Tout d'abord, le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Joseph Ponce, avec la soprano Anneuche Van Wilms. C'est samedi 11 mai à 20h à la Lograin. Au programme, 4 derniers leaders et Ainsi parla Zarathoustra de Richard Strauss, ainsi que le Beau Danube Bleu de Johann Strauss fils. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce même samedi 11 mai commencent les représentations de Mamselle Nitouche, l'opérette d'Hervé, au Théâtre du Capitole, avec entre autres Olivier Py dans la distribution. La première a lieu à 20h le 11 et il va y avoir 4 autres représentations les 12, 17, 18 et 19 mai. Celles des dimanches 12 et 19 commençant à 15h, les autres à 20h. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner sur le site www.theatreducapitole.fr. Et donc, je rappelle encore le concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 13 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est le dernier de la saison et vous allez pouvoir y entendre cette œuvre immense qu'est le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Ne ratez pas cette occasion et réservez d'ores et déjà vos places sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.